La chronique de Michel. Michel Poitvin, bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Alors, chronique économie avec vous. On commence avec, vous avez préparé un pot pourri de nouvelles, le secteur des hautes technologies qui est en plein émoi depuis hier après-midi.
Oui, on parle vraiment de la bourse, mais c'est peut-être des choses qui pourraient intéresser les auditeurs. Là, puis je vous mets en contexte, depuis plusieurs mois, la bourse, je dirais mondiale, là, pas seulement aux États-Unis, mais surtout aux États-Unis, mais ailleurs aussi, est portée par la haute technologie, puis notamment l'intelligence artificielle. Alors, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, est-ce que c'est une bulle, là? Je ne sais pas, mais disons que les actions faisaient très bien. Mais en même temps, les investisseurs récemment étaient un peu plus prudents. Ils se demandaient est-ce que l'intelligence artificielle va vraiment remplir ses promesses de transformer nos économies puis rapporter des profits faramineux. Les gens se posaient des questions. Puis on avait une grande volatilité. Puis c'était pas rare de voir une journée, l'action d'une compagnie augmenter de 7-8 alors que le lendemain, elle baissait de 5, 6 ou même plus. C'est qui ces firmes dans la haute technologie ou reliées à l'intelligence artificielle? Bien, il y en a qui produisent ce qu'on connaît ou plusieurs connaissent, qui produisent des logiciels comme ChatGPT. Ça, c'est OpenAI. Claude, qui est un autre logiciel qui est produit par Anthropic ou Gemini par Google. Et puis, il y en a d'autres. Alors, ça, c'est le premier groupe d'entreprises. Un autre groupe, c'est ceux qui fabriquent les puces qui permettent d'entraîner l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, comment elle apprend? Bien, c'est en parcourant le web, en lisant des millions et des millions de pages et tout. Puis ça prend des puces très puissantes pour les ordinateurs là, qui font que l'intelligence artificielle, avec toute cette information-là, en guillemets, apprend.
Les entraîner à faire du plagiat, finalement.
Oui, bon, ça, c'est un autre, ça
pourrait être un autre débat. Sujet, là,
mais,
oui, oui.
Mais effectivement. Donc, ces puces-là, elles sont fabriquées. Et puis, pour les fabriquer, on utilise des machines, le petit terme technique, des machines de lithographie par immersion dans l'ultraviolet profond, qu'on appelle DUV. Donc, on se sert de l'ultraviolet, là, puis demandez-moi-en pas plus, là, pour mettre des milliards de transistors sur des minuscules surfaces qui sont les puces. Et puis jusqu'à maintenant, dans le monde, il y a seulement une firme néerlandaise, ASML, qui est capable de fabriquer ces machines de lithographie.
Ah, j'aimerais voir un reportage là-dessus.
Oui, vous avez vu, vous aimeriez le voir?
Non, j'aimerais ça.
Ouais. Oui, c'est un peu intriguant, on se demande comment ça fonctionne, là. Et puis, ce qui arrive, c'est que l'Occident, surtout mené par Washington, a imposé des sévères restrictions à ASML, lui interdisant de vendre ces machines-là à la Chine pour préserver l'avance nord-américaine là, de l'Occident sur les Chinois dans le domaine de la haute technologie, notamment l'intelligence artificielle. Puis là, pourquoi j'en viens, donc toute cette mise en contexte, j'en viens à l'émoi là, depuis hier après-midi. Il y a un journal chinois qui a annoncé qu'une compagnie de Shanghai, Yulianxing, le nom de la compagnie, va débuter la production industrielle de ces machines DUV, à ultraviolet. Et ces machines-là sont suffisantes pour produire les puces avancées. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les Chinois vont être capables de rattraper le retard technologique et puis que les firmes nord-américaines vont se faire rattraper par les firmes chinoises. Et là, comme le marché était déjà un petit peu craintif, il s'en fallait pas de plus là, pour qu'il y ait une dégringolade là, en bourse de ces compagnies. Par exemple, Samsung qui fabrique des puces, un géant sud-coréen, a perdu 12% à la bourse hier. Nvidia, qu'on connaît aussi, ou probablement vous avez entendu parler, a perdu 5%. Mm-hmm. Je le regardais ce matin, c'était pas beaucoup mieux. Le Nasdaq perd un petit peu moins de 2%. Puis il y a un fonds mutuel que je suis, là, SOXX, qui est une espèce de fonds mutuels des entreprises qui produisent des puces est en baisse de 5,5%. Puis là, là, toutes les firmes individuelles, même dans le domaine quantique, là, chutent là, de, entre 5 et 10%.
Oui, on comprend les mois.
Oui, donc ça va être à suivre ce qui va arriver, là, mais avec les Chinois qui nous rattrapent, peut-être pour les consommateurs, parce que c'est une bonne nouvelle, il va y avoir plus de concurrence, mais en même temps, ce qu'on a remarqué sur les modèles d'intelligence artificielle chinois, c'est que, peut-être sans surprise, ils sont censurés ou biaisés. Il ne faut pas leur demander des questions sur la place Tiananmen, par exemple, ou des choses comme ça. Mais il y a beaucoup d'investisseurs qui sont nerveux ce matin avec ce qui se passe depuis hier après-midi.
Parlant de système nerveux un petit peu éprouvé, le président Trump a dit qu'il était confiant qu'un accord surviendra avec l'Iran.
Oui, les hostilités ont cessé complètement, là, mais on a une espèce de petite trêve. Et puis justement, Trump a dit qu'il était confiant qu'un accord surviendrait, mais en même temps, j'ai lu que les Iraniens disent qu'eux, ils ne sont pas en négociation.
Non, c'est ça.
Ce ne sera pas la première fois que les deux...
Et en plus, aujourd'hui, il reçoit Benjamin Netanyahou, je m'excuse, oui, Netanyahou, qui va peut-être l'encourager à...
Peut-être,
mais à ne pas s'accorder justement avec l'Iran.
Clairement, c'est ce qu'Israël veut, mais en même temps, je pense que Trump commence à être un peu moins chaud là, à l'égard de Netanyahou, effectivement. Et puis, il n'est pas, Israël n'est pas porté dans le cœur de tous les gens de MAGA là, derrière Trump. Là. Alors, on va voir comment vont se dérouler
cette rencontre-là.
Mais il y a déjà un impact sur le prix du baril de pétrole. Là, la semaine dernière, il était monté un petit peu en haut de 90 $ avec la reprise des hostilités. Mais là, il se transige plus autour de 80 $. Est-ce la bonne foi? Est-ce que ça va être enfin la signature d'un accord de paix? On ne sait pas, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle pour les Américains. Puis ça nous amène peut-être au troisième sujet dont je voulais parler. Demain, la Banque fédérale américaine va annoncer, faire son annonce de taux d'intérêt. Depuis 5 mois, l'inflation aux États-Unis est en haut de 3 %, puis on a même eu il y a 2 mois un pic en haut de 4 %. Puis leur site, ils veulent vraiment que l'inflation soit plus autour de 2, peut-être 2,5 %. Donc, on est nettement en haut de la cible, puis ça dure. Puis là, le danger, c'est que là, de plus en plus, il y a des attentes inflationnistes dans l'économie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, des attentes inflationnistes? Bien, les travailleurs s'attendent à ce qu'il y ait de l'inflation, ils demandent des augmentations de salaire. Les entreprises s'attendent à payer des salaires plus élevés, elles augmentent leur prix. Ça alimente l'inflation. Vous voyez, c'est une spirale là, qui peut mener à des taux d'inflation plus élevés. Donc, on va voir l'annonce demain. Les experts pensent que probablement que les taux d'intérêt vont rester les mêmes, surtout avec cette nouvelle là, que le baril de pétrole est revenu autour de 80, puis que ça se calme en Iran, on dit ben, peut-être c'est une bonne nouvelle, puis les pressions inflationnistes de l'énergie vont diminuer dans les prochaines semaines. Alors probablement qu'ils vont laisser les taux inchangés, mais on s'attend à ce que possiblement en septembre, à l'annonce suivante, il y ait peut-être une augmentation des taux d'intérêt là, si l'inflation continue à rester en haut de 3 %. Donc, ça va être à voir demain. Puis peut-être un autre facteur, là, on en parle moins dans les journaux, mais là, avec faire un lien avec notre premier sujet, avec tout le secteur des technologies qui baisse, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont touchés. Puis parfois, il y a des effets de la bourse sur les comportements de consommation. Là. Si votre portefeuille à la bourse va bien, ben, vous êtes de bonne humeur, peut-être vous dites, oh, on peut changer d'auto, on va changer d'électroménager, on va investir.
On fait des projets.
On va, pardon?
Je dis, on fait des projets.
On fait des projets, on consomme plus, mais là, avec la bourse qui va moins bien, c'est possible qu'il y ait des consommateurs qui hésitent à dépenser autant. Et donc, ça serait bon pour, si un petit ralentissement de l'économie dû à ça, mais ça va limiter, si vous voulez, les pressions inflationnistes. Donc, c'est un autre facteur qui fait que, d'après moi, les taux ne changeront pas demain, mais à voir pour le restant de l'année. Puis on se souviendra que, je pense qu'on avait parlé, que le président Trump avait nommé Warsh, le nouveau directeur, en pensant que, parce qu'il trouvait que l'ancien directeur de la Banque centrale, de la Fed, il trouvait qu'il baissait pas les taux d'intérêt assez vite. Il a nommé Warsh, mais Warsh, il a l'air de faire son affaire et d'être assez rigoureux. Donc, il n'est pas là nécessairement pour faire plaisir à Trump. Là. Je pense que lui, il veut préserver l'indépendance de la Banque fédérale. Puis s'il faut qu'il augmente les taux, il va les augmenter.
On aime ça de même. C'est
une bonne nouvelle.
Oui. Merci beaucoup, Michel. Puis je vous dis à la prochaine, parce que moi, la semaine prochaine, je vais être en vacances, mais au quotidien continue avec Denis Martin Chabot. Nous, on va se retrouver le 1er septembre.
Bon, bien, profitez bien de vos vacances. Je vous souhaite du beau temps.
Vous êtes bien aimable. Et puis, ben vous, bonne suite d'été.
Merci bien. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.